Vous avez faim? Ça tombe bien. Tous à table, c'est l'émission qui parle de votre alimentation sur Graffiti, présentée par Frédéric.
Salut les gourmets, salut les gourmands, soyez les bienvenus dans Tous à table. C'est une question que nous autres, êtres soi-disant supérieurs de l'espèce humaine, nous nous posons depuis la nuit des temps. Qui de l'œuf ou de la poule est apparu en premier? Si je vous pose cette question, vous avez deux choix de réponse. Vous pouvez me dire « c'est l'œuf, bien sûr », mais dans ce cas, je vous demanderai en retour « qui a pondu cet œuf ?». Vous pouvez aussi me répondre que c'est la poule. Alors, je pourrais vous rétorquer que la poule est bien sortie d'un œuf, non? Bref, si l'on s'en tient au concept de l'œuf en général, alors il est clair que l'œuf est apparu quelques centaines de millions d'années avant la poule. Les poissons pondaient des œufs à une époque où n'existait pas encore la moindre poule. Et plus tard, les dinosaures ont pondu des œufs calcifiés comme ceux d'une poule. Trêve de philosophie sur le sujet, le plus important est que nous avons depuis bien longtemps des œufs à notre disposition pour les cuisiner et c'est tant mieux. Vous l'avez compris, aujourd'hui je vais vous parler des œufs. Et même si le sujet est très vaste, je vais essayer de le synthétiser pour vous le temps de cette émission. Alors, si vous êtes prêts, enfilez votre tablier de cuisine et suivez-moi dans cette découverte passionnante. Tous les œufs ne sont bien sûr pas à mettre dans le même panier. Plus de 1000 milliards d'œufs sont produits chaque année dans le monde. En Europe, les œufs de poule sont les plus consommés, devant ceux de l'oie, du canard et d'écaille. La France est d'ailleurs le premier producteur européen d'œufs, mais sachez que 80% des 46 millions de nos poules pondeuses nationales sont élevées en cage et malheureusement bien souvent dans des conditions totalement indignes. Ceci dit, en 2023, notre consommation moyenne d'œufs a bondi en France à 229 cocos par personne sur l'année, un record qui s'explique selon les experts par les conséquences de l'inflation et nos choix en termes de consommation. Mais savez-vous quand et comment les œufs sont arrivés dans nos assiettes? Les œufs de diverses espèces d'oiseaux sont sans nul doute consommés depuis les temps les plus anciens par les premiers hommes. D'autant que les œufs de n'importe quelle espèce pondeuse, y compris ceux de la tortue et de l'alligator, peuvent servir de nourriture. À l'époque des chasseurs-cueilleurs, les œufs de canne, d'oie, de pintade, de pigeon, de caille, voire d'autruche, bref, de tous les volatiles dont on pouvait piller les nids, étaient ramassés. Gobés, ils nourrissaient quand la viande faisait défaut. Mais la période des premières domestications d'oiseaux pour la consommation d'œufs est inconnue. Certains écrits historique indien raconte comment la poule était déjà domestiquée en 3200 avant notre ère et des écrits égyptiens et chinois indiquent quant à eux que les poules pondaient des œufs pour l'homme en 1400 avant Jésus-Christ. Dans l'Antiquité, les Phéniciens se régalaient d'œufs d'autruche, tandis que les Romains consommaient ceux du paon bleu et les Chinois ceux du pigeon. Bien que le célèbre gastronome romain Apicius donne dans son ouvrage culinaire diverses recettes de flans et d'omelettes, l'œuf restera longtemps un aliment marginal. D'abord, à cause d'interdits religieux et de croyances superstitieuses. Ensuite, pour des raisons économiques. En effet, pour le peuple, il semblait nettement plus rentable d'attendre que l'œuf se transforme en poule ou en coq pour le manger ensuite. Faisaient exception à cette règle les Chinois, qui le considéraient comme une excellente source nutritionnelle et en ont répandu l'usage dans tout l'est de l'Asie. Au Moyen-Âge, aucun écrit conservé en Europe ne mentionne l'œuf. Peut-être parce que, tout comme la viande, il était interdit par l'Église catholique d'en consommer les jours maigres, c'est-à-dire pendant plus de 160 jours par an. et comme les poules ne suivaient pas le calendrier liturgique, mais plutôt celui des saisons et de leur cycle biologique, elles pondaient abondamment durant le carême, période où la lumière du jour est de nouveau abondante. On les conservait alors dans de la graisse liquide ou de la cire jusqu'à Pâques, jour faste par excellence. Au milieu du XVe siècle, en Europe, l'œuf de la poule a pris le pas sur tous les autres. On pense que les poules d'aujourd'hui, dans la production des œufs, sont les descendantes de celles arrivées des Amériques à bord des navires de Christophe Colomb. C'est à partir du XVIIe siècle que l'on connaît au moins une soixantaine de recettes pour apprêter cet aliment qui figure de plus en plus souvent au menu et dans les écrits. Louis XV, qui raffolait d'œufs à la coque et de meringue, serait à l'origine du développement de l'aviculture à Versailles. Les poulettes étaient installées jusque dans les greniers et fournissaient quotidiennement les coquetiers royaux. Sous le règne de ce roi, les Français consommaient 60 œufs par an et par personne. Et Menon disait de l'œuf « C'est un aliment excellent et nourrissant que le saint et le malade, le pauvre et le riche partagent ensemble. » Au XVIIIe siècle, la découverte par les Français d'une technique de couvaison artificielle que pratiquaient les Égyptiens en ayant recours à des fours à basse température suscita le plus vif intérêt chez les éleveurs. Au XIXe siècle, des races de poules nettement plus productives sélectionnées par les Chinois feront leur apparition en Occident, créant un véritable émoi chez les éleveurs qui voudront tous posséder quelques-uns de ces nouveaux oiseaux très différents de ceux des races méditerranéennes et européennes connues jusqu'alors. Au cours de ce siècle, une centaine d'autres races seront créées, dont certaines que l'on élève pour la chair uniquement, quand d'autres sont élevées pour les œufs ou d'autres encore pour les deux usages. Le XIXe siècle arrive avec son cortège de bonnes et de mauvaises idées. D'une part, les poules vont et viennent comme elles le souhaitent, pratiquant ainsi leur jogging quotidien avec assiduité et ne picorant que des bonnes choses, du blé, du maïs par exemple. Elles mènent une vie satisfaisante et par conséquent pondent des œufs de qualité. D'autre part, toujours à la recherche de rentabilité et de production maximale, l'être humain est ainsi fait à toujours en vouloir plus. Certaines poules sont entassées dans des boxes minuscules maintenues à température idéale et à un degré d'ensoleillement optimal. Le résultat est alors évident, les œufs sont plus nombreux, mais dotés d'une saveur plus grossière, beaucoup moins fine que celle des pondeuses de plein air. Jusque dans les années 1980, l'œuf sera considéré comme un aliment parfait. Une popularité qui décroît lorsqu'on découvrira que son jaune est particulièrement riche en cholestérol, accusé d'être la cause de maladies cardiovasculaires. Au cours de cette seule décennie des années 80, la vente des œufs frais va chuter de 25%. La multiplication des épidémies de salmonellose pendant la même période et jusqu'à récemment ajoutera encore à cette fatalité. Il est dès lors déconseillé de manger l'œuf cru, qui figurait jusque-là dans de nombreux plats, notamment dans la mayonnaise. Depuis quelques années, l'œuf regagne un peu plus en popularité après diverses études cliniques qui ont démontré que pour la majorité de la population, il constituait un aliment d'excellente qualité. Alors, si cet aliment est de qualité, que nous apporte-t-il vraiment ? Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'œuf n'est pas un aliment complet. Il lui manque des glucides, des fibres et de la vitamine C. Cependant, il sert de protéine de référence, il est également peu calorique, mais le jaune est toutefois riche en cholestérol. L'œuf est un aliment protéique d'excellente qualité. Il contient les 8 acides aminés essentiels à la croissance et à l'entretien du corps humain. Les protéines servent surtout à former, à réparer et à maintenir en bon état les tissus comme la peau, les muscles et les os. Elles servent aussi à la formation des enzymes digestives et des hormones. Et savez-vous comment choisir les œufs? Tout d'abord, imaginons une petite comparaison de la population française avec un élevage de poules. Eh bien, dans ce cas, la grande majorité d'entre nous vivrait complètement entassée jusqu'à 13 individus par mètre carré. La solution? Ouvrez l'œil et cherchez les indications œufs fermiers, label rouge ou produit de la ferme qui indiquent un élevage de petite taille et des poules élevées en liberté. Je ne sais pas pour vous, mais pour les œufs distribués dans le commerce, eux sont tous tatoués. En effet, repérez sur la coquille le chiffre généralement placé avant les deux lettres du pays d'origine, FR pour la France, il vous indique le mode d'élevage. Alors d'abord, vous évitez le chiffre 3, qui correspond aux élevages en cage, et le chiffre 2, pour les élevages gigantesques en batterie au sol. Je vous conseille d'opter pour les chiffres 0 et 1 qui désignent respectivement les élevages bio et les élevages en plein air. Et le goût des œufs de poule élevés en plein air et nourris au grain est vraiment incomparable. On se retrouve dans la deuxième partie de Tous à table, après la pause musicale avec Lisa Pariente. Avec ses fringues colorées, ses moues théâtrales, son côté sans filtre, son mètre 56 et sa jovialité pétillante, Lisa Pariente a l'apparence de la bonne copine bien dans ses baskets. Cette jeune parisienne propose des chansons générationnelles et dans lesquelles elle redéfinit les codes amoureux. Paroles vengeresses de rupture, pop contagieuse et chippie, voici son titre « Belle ».
La fête est belle, les gens sont beaux. Je crois que j'ai pris le verre de trop. Je pense tout haut. Une danse fumée s'installe. Il danse dans cette odeur sale. Elle me regarde. Il rit à ses blagues plus qu'aux miennes. Je suis parano, je me dis peut-être qu'il m'écouterait si j'étais. J'aimerais être belle, juste pour essayer. J'aimerais être belle, pour voir ce que ça fait. Je serais de celle qui te ferait rêver. J'aimerais être belle, sans même le remarquer. Je déteste la détester. Ses faits et gestes sont si parfaits. Du moins, il me paraît. Mais si seulement je m'en foutais. Mais comment faire pour l'ignorer? Aussi seulement j'étais. J'aimerais pas
à table, la suite avec aujourd'hui les œufs. Et après avoir découvert dans la première partie de l'émission la petite histoire de l'œuf, ses bienfaits et comment le choisir, nous allons maintenant découvrir ensemble comment conserver vos œufs et surtout comment les cuisiner. À la coque, au plat, en omelette ou encore en gâteau, ce ne sont pas les idées ni les techniques ou les recettes qui manquent. Vous avez acheté vos œufs à la ferme, sur le marché ou en grande surface, mais comment allez-vous les conserver? Je vous entends déjà répondre « au frigo, bien sûr ». Alors, contrairement aux idées reçues et aux réceptacles à œufs intégrés à votre réfrigérateur, les œufs ne se conservent pas au frigo. Pourquoi ? Parce qu'ils sont naturellement recouverts d'une pellicule protectrice qui empêche les bactéries de passer. Ensuite, la coquille de l'œuf étant poreuse, une fois placée au frigo, l'œuf pourra absorber toutes les odeurs. Sur la boîte, une mention peut vous recommander une conservation au réfrigérateur. Mais rappelez-vous que nos arrière-grand-mères conservaient bien les œufs à température ambiante. D'ailleurs, des études scientifiques ont montré que le froid ne change rien. Les œufs ne développent pas plus de bactéries à 20 degrés qu'à 4 degrés. Pour ne pas avoir de mauvaises surprises, conservez-les dans un endroit frais et à l'abri de la lumière. Alors, maintenant que vous le savez, faites comme vous voulez. Vous pouvez également conserver les œufs au congélateur, mais sans leur coquille. Selon le futur usage, vous pouvez séparer ou non le blanc du jaune. Attention à ne pas faire n'importe quoi avec un œuf déjà ouvert, car c'est un terrain de jeu favori pour les microbes. Un jaune cru doit par exemple être consommé dans les 24 heures, pas plus. Les œufs que l'on utilise en cuisine doivent être consommés dans les 28 jours suivant leur ponte. Ils sont extra frais pendant les 9 jours après la ponte. En France, les œufs sont d'ordinaire beige, mais dans d'autres pays, comme aux États-Unis ou en Angleterre, ils sont souvent blancs. Alors, cela n'a rien à voir avec la qualité de l'œuf, mais la couleur dépend de la race de la poule pondeuse. Et petite astuce pour savoir si votre œuf est frais, remplissez une casserole d'eau froide et ouvrez l'œil. S'il reste couché au fond, super, l'œuf est tout frais. Plus il se redresse, plus il a de jours au compteur, et s'il flotte complètement, il n'est plus comestible. Jetez également les œufs fêlés et ne lavez jamais les coquilles qui constituent une barrière contre les bactéries. Et maintenant, c'est le moment de passer en cuisine. Les œufs sont classés en fonction de leur poids, petit, moyen, gros ou très gros. Les très gros pèsent plus de 73 grammes. C'est un calibre idéal pour les œufs à la coque ou les œufs en cocotte. Les plus courants sont les œufs de calibre moyen, qui pèsent entre 53 et 63 grammes. Ils sont parfaits pour la pâtisserie. Sachez que le blanc et le jaune possèdent chacun des propriétés physiques distinctes, à commencer par la température de coagulation. Elle est de 62 degrés pour le blanc et de 68 degrés pour le jaune, ce qui explique qu'un œuf à la coque puisse avoir un jaune liquide et un blanc solide. Le jaune entre dans la composition de nombreuses crèmes, la crème anglaise, la crème pâtissière par exemple. Il sert également d'épaississant ou de liant. Émulsionné, il permet d'intégrer de l'air, comme dans la mayonnaise ou le sabayon, et il apporte du moelleux aux pâtisseries. Le blanc, quant à lui, monté en neige, apporte de la légèreté à une pâte à gâteau et permet de réaliser des mousses. Il sert également de liant à de nombreuses préparations sucrées comme salées. Allez, commençons par le plus simple, l'œuf dur que l'on cuit dans une casserole d'eau bouillante pendant 9 minutes à partir de l'ébullition. Une fois cuit, on le plonge dans un récipient rempli d'eau froide pour arrêter la cuisson et pouvoir l'écaler sans se brûler. À servir chaud ou froid avec une bonne mayonnaise maison. Aussi facile que délicieux, l'œuf au plat est le béaba de la préparation des œufs. C'est la méthode de cuisson la plus facile et inratable pour se régaler avec un minimum de préparation. Une poêle anti-adhésive, de la matière grasse, huile, beurre ou margarine, bien chauffée, et un œuf entier. Cela suffit pour un œuf au plat réussi. Les puristes le savent, rien ne vaut un œuf au plat agrémenté de fleurs de sel et servi avec du bon pain frais, voire un peu de beurre. Mais il peut aussi s'accompagner de bon nombre d'ingrédients. Fabuleux sur un croque-madame, divin avec des pancakes salés aux épinards, parfait avec des champignons sautés, rafraîchissant avec des herbes, néoclassique sur un toast à l'avocat, L'œuf au plat est une toile blanche avec laquelle chacun peut se sentir artiste dans sa cuisine. L'œuf frit est le stade de cuisson juste au-dessus de l'œuf au plat. Pour le réaliser, il suffit de faire frémir de l'huile dans une poêle sur feu vif, puis d'ajouter son œuf et d'arroser le blanc d'huile brûlante. Ainsi, le blanc va devenir divinement croustillant alors que le jaune sera coulant. Un mélange de textures qui explique totalement son succès. Basique, facile et inratable, l'œuf à la coque est un intemporel de la cuisine. Glissé entier dans une casserole d'eau bouillante, il n'a besoin que de 3 minutes de cuisson à peine avant de pouvoir être dégusté avec des mouillettes de pain beurré. Une recette incontournable qui a fait ses preuves depuis des décennies pour le régal des petits et des grands. Plonger 6 minutes dans un bain d'eau bouillante puis écalé, l'œuf mollet révèle quant à lui à la dégustation un cœur coulant et un blanc saisi par la chaleur. Un délice bon pour votre santé puisqu'il est réalisé sans aucun ajout de matière grasse. Associé à de la polenta crémeuse, des pommes de terre aillées ou des légumes rôtis, il s'adapte à tous les accompagnements. L'œuf crémeux est ce juste entre-deux qui a tout de séduisant. Glissé dans un sandwich, sur un toast à l'avocat ou avec des tomates cerises parfaitement rôties, il apporte de l'onctuosité à l'ensemble. Ah, les œufs pochés! Pour certains, la perfection ultime. Pour d'autres, la difficulté suprême. En effet, sur le papier, casser un œuf dans un tourbillon d'eau bouillante ne semble pas irréalisable en soi. Et pourtant, il faut un petit coup de main pour réussir à obtenir une forme parfaite. Mais qu'importe, au final, que l'œuf soit parfait ou légèrement échevelé, il sera toujours aussi bon. Tiens, les œufs bénédictes sont des œufs pochés nappés de sauce hollandaise au citron. C'est cette sauce qui va donner du peps au plat. Pour la préparer, il faut faire chauffer au bain-marie des jaunes d'œufs battus avec un peu d'eau. On incorpore ensuite du beurre en parcelles et on finalise avec du jus de citron. Un délice à servir avec du lard grillé, des légumes rôtis ou du saumon fumé. Et l'œuf mimosa, c'est la solution pour une entrée facile, un apéro qui ne va pas exploser votre budget et surtout un plat qui va plaire aux petits et aux grands. Pour le réaliser, il suffit de couper en deux un œuf dur, de prélever le jaune et de le mélanger avec un peu de mayonnaise, et ce sera encore meilleur si elle est maison. Et on termine en garnissant le blanc avec cette préparation. Il va de soi que cette préparation peut être agrémentée d'épices, d'avocats écrasés, de coulis de tomates ou de poivrons, ou encore de condiments hachés comme des cornichons, des câpres, du réfort, des oignons nouveaux. Un classique de votre brunch dominical, l'œuf brouillé avec sa texture crémeuse et généreuse. Il va ravir tous les gourmets. Pour le réussir à la perfection, on fait chauffer une poêle avec de la matière grasse, puis on ajoute l'œuf battu. On laisse saisir quelques instants la préparation, puis on ramène les bords vers le centre et on continue l'opération jusqu'à obtenir le résultat désiré. S'il reste un petit peu de liquide brillant, l'œuf sera crémeux et légèrement baveux. Si au contraire l'œuf est de couleur mate, alors il est 100% cuit et n'aura pas cet effet mouillé en bouche. Et quoi qu'il en soit, il n'y a pas de mauvaise façon de préparer l'œuf brouillé, chacun le cuit selon son goût. Placé dans un ramequin, puis cuit pendant 15 minutes environ à 120 degrés, l'œuf cocotte se plie à toutes les fantaisies, mélangé à des coulis de tomates, des cèpes aillés, du fromage râpé, etc. Et pour donner un look et un arôme puissant à l'œuf, pourquoi ne pas essayer de préparer un œuf marbré ? Première étape, vous allez cuire l'œuf entier jusqu'à ce qu'il soit dur, soit 10 minutes de cuisson. Deuxième étape, vous allez craqueler délicatement sa coquille avec le dos d'une cuillère, puis vous le plongez dans un bain d'eau bouillante agrémenté de sauce soja, de thé noir, de sucre brun, d'anis étoilé, de cannelle, de zeste d'orange et de poivre moulu. Vous allez laisser mariner à feu très doux pendant 3 heures, puis vous allez laisser l'œuf refroidir dans la casserole pendant 3 heures avant de l'écaler. Et que dire des omelettes ? Toujours une bonne idée, l'omelette généreuse, gourmande, customisable à l'infini, permet toutes les fantaisies. et elle réconcilie même très souvent les plus récalcitrants avec les œufs. Des œufs battus dans une poêle graissée, mise à chauffer, cela suffit amplement pour préparer une merveilleuse omelette. Pour un plat plus aérien, vous pouvez essayer l'omelette soufflée. Pour la réaliser, rien de bien compliqué, il suffit de battre les blancs en neige, d'ajouter au jaune d'œufs et de faire ensuite la cuisson comme une omelette classique. Et côté sucré, pour un plat qui change et qui bluffe à coup sûr, je vous propose d'opter pour un blanc mangé d'œufs. Vous montez les blancs en neige, vous tapissez le fond et le pourtour d'un emporte-pièce haut et vous ajoutez le jaune au centre, puis recouvrez de blanc en neige. Vous lissez le dessus et vous enfournez 4 minutes à 120 degrés. Alors, quelle que soit votre utilisation en cuisine, vous aurez toujours une bonne raison de cuisiner les œufs. Et cette semaine, sur le site urban-radio.com, je vous propose de retrouver la recette du chef doublement étoilé au guide Michelin Nicolas Stamm du restaurant La Fourchette des Ducs en Alsace. Cette recette, c'est l'œuf poché façon meurette, morille farcie. Cette émission touche à sa fin, alors n'attendez plus, sortez vos poêles et vos casseroles et lancez-vous dans de délicieuses préparations à base d'œufs. Passez une très belle journée en compagnie des bonnes ondes de graffiti et rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures gourmandes dans Tous à Table. À bientôt.
Réécoutez Tous à Table sur le site urban-radio.com, sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et autres. En attendant de retrouver Frédéric pour une prochaine émission, mangez bien, mangez sain.